C'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les complémentaires santé qui vont devoir passer à la caisse. Les assureurs ont fait des économies pendant la crise sanitaire. Moins de consultations chez le médecin, donc moins de remboursements. Mais le gouvernement leur a présenté la facture hier soir. Une taxe d'1,5 milliard. Précision tout de suite du chef du service économie. L'inquiétude des personnes fragiles face au coronavirus. Certaines vont devoir revenir au travail. La liste des cas autorisés à rester à la maison a été largement réduite. À suivre également le gouvernement qui mise sur la filière de l'hydrogène, énergie pas toujours si verte selon certaines ONG. La rentrée politique à droite en ordre dispersé avec au cœur des divisions la question des primaires et puis du people pour terminer avec Harry et Meghan qui s'allient à Netflix pour produire des films.
Un mot à 7h50 sur le débat éco, votre rendez-vous du vendredi. Thomas Piketty et Dominique Seux sur un sujet unique ce matin, le plan de relance dévoilé hier par le Premier ministre Jean Castex.
France Inter.
Et c'est un chèque, Sébastien, avec 9-0 que les assureurs s'apprêtent à faire à l'État.
Oui, une taxe exceptionnelle dont vont devoir s'acquitter les complémentaires santé. Il faut dire qu'elles ont vu leurs dépenses chuter ces derniers mois. On s'en souvient, au plus fort de l'épidémie, les cabinets des médecins étaient presque vides, désertés par les patients. Des milliers d'opérations ont été déprogrammées. Résultat, les mutuelles ont moins remboursé que d'habitude. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Ce magot du Covid, pourrait-on dire, le gouvernement ne comptait pas le laisser dans la poche des assureurs.
Non, parce que la sécurité sociale a, elle, dû en revanche faire face à l'épidémie de coronavirus et elle s'est lourdement endettée. On parle d'une 30 milliards pendant que les complémentaires santé se constituaient, malgré elle, un véritable trésor de guerre. Voilà donc le gouvernement qui vient présenter la douloureuse 1,5 milliard d'euros. Une facture à régler en deux temps, 1 milliard l'année prochaine et 500 millions celle d'après. Pourquoi ? Parce que les assureurs invoquent un argument que le gouvernement ne rejette pas. D'ailleurs, les soins hors Covid qui n'ont pas été pratiqués depuis le déclenchement de l'épidémie ont simplement pour beaucoup été reportés. Quand ils seront pris, il faudra bien les rembourser. Une sorte de bombe à retardement pour les assureurs santé. L'échelonnement de la taxe sur 2 ans permettra si besoin d'ajuster le tir d'ici là. La taxe prendra la forme d'un prélèvement direct sur leur chiffre d'affaires. Au total, depuis le début de la crise sanitaire, les complémentaires santé ont économisé quelque 2,2 milliards d'euros.
Merci Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter.
Il est 7h33, les chiffres de l'épidémie de coronavirus, Sébastien, progressent encore.
Plus de 7000 nouveaux cas d'infection hier et un nombre en hausse des patients en réanimation. Le taux de positivité des tests lui aussi augmente à 4,4%. Mais en dépit de ces mauvais chiffres sanitaires, l'État veut remettre les gens au travail, y compris les personnes dites fragiles. Jusqu'ici, un décret permettait aux plus vulnérables de rester chez eux et de bénéficier du chômage partiel, mais ce décret a changé le 31 août dernier et la liste des personnes concernées désormais beaucoup plus restreinte. Les associations s'en inquiètent, Véronique Julia.
Le précédent décret qui remonte à début mai visait large. Il faisait bénéficier du chômage partiel toute personne ne pouvant pas télétravailler et étant âgée de plus de 65 ans ou présentant une insuffisance respiratoire, un asthme sévère, une mucoviscidose, un diabète avec complications, une obésité, une insuffisance rénale dialysée ou encore un cancer. Le décret du 31 août réduit la voilure. Il ne concerne plus que les personnes qualifiées de très à risque. Les pathologies respiratoires disparaissent, de même que les plus de 65 ans et les personnes obèses. Pour être retenu dans la liste, il faut cumuler, par exemple, un âge avancé et un diabète avec obésité ou complications. L'association Rénalou, qui représente les insuffisants rénaux, n'a pas trop à se plaindre car les greffés et les dialysés figurent dans la nouvelle liste. Il n'empêche, Magali Léo, la responsable du plaidoyer de l'association, dénonce une liste à minima.
Ça nous paraît assez clair, le gouvernement souhaite remettre tout le monde au travail. Ce décret ne prévoit rien pour la situation des proches de ces mêmes personnes hautement fragiles. Et d'autre part, il est hyper restrictif. On pense notamment à l'obésité morbide.
Pour les associations, cette liste doit donc évoluer en y rajoutant certaines pathologies mises de côté ou en apportant au moins des garanties supplémentaires à ceux qui n'y figurent plus, comme par exemple la prise en charge d'un transport individuel si la distanciation physique n'est pas assurée dans les transports collectifs.
Véronique Julia du service santé, c'est aujourd'hui qu'Alain Coq a décidé tenter de se laisser mourir. Alain Cox est cet homme de 57 ans, victime d'une maladie incurable et qui ce soir va s'arrêter de s'alimenter. Cet été, il avait envoyé une lettre à Emmanuel Macron demandant une fin de vie dans la dignité avec assistance médicale active. En clair, une sédation profonde à laquelle il n'a pas le droit aujourd'hui. Mais le chef de l'État l'a appelé hier soir pour décliner sa demande, expliquant ne pas être au-dessus des lois. On y revient dans le journal de 8 heures. Emmanuel Macron qui par ailleurs prononcera ce matin un discours au Panthéon afin de célébrer les 150 ans de la République française et qui doit aussi rencontrer aujourd'hui le président ivoirien Alassane Ouattara qui entend se présenter à sa succession fin octobre, risquant ainsi de provoquer de graves violences dans le pays. La France entend miser gros sur l'hydrogène, une énergie sans émissions de gaz à effet de serre qui pourrait révolutionner les transports. Hier, dans son plan de relance, le gouvernement a annoncé investir plus de 7 milliards d'euros d'ici 10 ans. Mais cet hydrogène que nous promet l'État sera-t-il vraiment vert, garanti 100% écolo? Pas sûr du tout, dénoncent plusieurs ONG. Célia Kiré.
Le gouvernement y croit. Désormais, cette énergie pourra bientôt permettre massivement à des bus, des bateaux ou même des avions de fonctionner sans émettre de CO2, mais de la vapeur d'eau, voilà une énergie magique pour la qualité de l'air. Mais est-ce pour autant une énergie propre ? Tout dépend comment on la fabrique. Or, le gouvernement mise en partie sur le nucléaire pour faire tourner les électrolyseurs. Une énergie faible en carbone, mais pas totalement verte pour Pierre Canet du WWF.
L'Allemagne, elle, quand elle parle d'hydrogène basé sur les énergies renouvelables. Pour l'instant, il y a un flou sur ce sujet. Il y a un risque, effectivement, que ça soit perçu avec un prisme uniquement nucléaire.
Or, les ONG comme la Fondation Nicolas Hulot ne veulent pas de cadeaux cachés au nucléaire. Samuel Leray attend des engagements plus forts sur les énergies renouvelables.
L'hydrogène, aujourd'hui, il est très carboné, donc il va falloir le décarboner, l'utiliser à partir d'énergies renouvelables, ne pas l'utiliser à partir de nucléaire, puisqu'on sait que c'est une énergie très chère. Il faut voir à quoi elle doit servir. Elle doit servir notamment à permettre d'inventer des nouvelles solutions sur le transport ferroviaire ou pour les camions.
En tout cas, 7 milliards d'euros pour l'hydrogène d'ici 10 ans contre 100 millions seulement en 2019. La France change d'échelle. Le gouvernement réfléchit par exemple à des giga-usines de piles à combustible pour les voitures. Alors, hydrogène vraiment vert ou pas, des précisions seront données mardi par les ministres.
Célia Kiré a noté que parmi les 100 milliards annoncés hier, des aides directes à destination du patrimoine, 614 millions d'euros en particulier pour les cathédrales et les grands musées en grande difficulté après la crise sanitaire. Politique maintenant avec cette question, la droite va-t-elle ou non se relancer dans des primaires pour les élections de 2022? Le sujet divise, il sera au centre de la rentrée officielle des LR aujourd'hui. Deux jours de table ronde au Port-Marly dans les Yvelines avec annoncé 1200 jeunes militants et comme invité quelques prétendants à la candidature suprême, François Baroin ou encore Valérie Pécresse qui a pourtant claqué la porte du parti il y a un an. Tout ce petit monde qui s'interroge notamment sur une question, Élodie Forêt, comment choisir entre les futurs aspirants à l'Élysée.
La primaire de 2016 ayant traumatisé la droite, Gérard Larcher, patron du Sénat, inspiré par son notaire, a trouvé un nouveau mot moins effrayant, le départage. Nouveau mot mais système similaire envisagé, avec des candidatures hors parti qui seraient autorisées. Reste à définir qui vote, pas question de se faire de nouveau parasiter par des électeurs de gauche, préviennent notamment les sarkozystes. Pour Franck Louvrier, maire de la Baule, soit il faut une primaire interne, soit tout simplement laisser ceux qui le veulent se présenter à l'élection présidentielle.
On dit toujours que le premier tour on sélectionne et le deuxième tour on choisit. Et bien, c'est exactement ça le fonctionnement de la 5e République. Il y aura un premier tour avec plusieurs candidats. Vous ne croyez pas que les primaires vont empêcher d'avoir plusieurs candidats.
Anti-primaire, lui aussi, le député Julien Dive, proche du patron des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Lui, il a l'envie de rassembler au-delà des Républicains et même au-delà de la droite. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas s'enfermer uniquement dans un carcan qui est celui de la primaire. S'il est mieux placé qu'un autre, il pourrait embarquer avec lui toute la candidature de la droite. Et si ça marche pas, tant pis.
Un candidat qui émergerait naturellement, surtout s'il s'appelle François Baroin, c'est le fantasme aussi de la direction LR, qui repousse tant que possible la décision sur un éventuel système de départage, au moins jusqu'au régional.
Élodie Forêt, du service politique d'Inter.
7h39, on en vient, Sébastien. La plus grande fuite informatique de l'histoire, les Football Leaks, devant la justice aujourd'hui.
Oui, les Football Leaks, 70 millions de documents confidentiels sur les les coulisses peu glorieuses du ballon rond livré à la presse fin 2015 par un homme, Rui Pinto, un Portugais de 31 ans, jugé à partir d'aujourd'hui à Lisbonne, un fan de foot devenu lanceur d'alerte, mais aujourd'hui poursuivi pour 90 chefs d'accusation. À quelques heures de ce procès attendu, qui devrait durer 2-3 mois, interrogeons-nous sur ce qui reste de ces Football Leaks 5 ans après. Qu'est-ce qui a changé dans ce monde du ballon rond? Élément de réponse avec Emma Sarango.
Bien sûr, il y a eu cette amende de près de 19 millions d'euros versée par le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo, épinglé pour fraude fiscale. Bien sûr, il y a eu ces perquisitions menées en mars dernier au siège du club du Benfica Lisbonne. Bien sûr, il y a cette procédure en cours visant Gianni Infantino, le président de la FIFA, soupçonné d'abus d'autorité auprès d'un procureur suisse. Mais que ce soit le fichage ethnique au PSG, le dopage financier du club de la capitale, les magouilles d'agents de joueurs ou encore l'exploitation d'enfants africains, aucune révélation issue des Football Leaks n'a donné lieu à une condamnation, a fortiori à des peines de prison. Seul Rui Pinto a été derrière les barreaux au Portugal, où le statut de lanceur d'alerte n'est pas reconnu. Rien d'étonnant pour Edoui Plenel, le président fondateur de Mediapart, qui témoigne en faveur de l'accusé au procès de Lisbonne.
Évidemment que les sanctions ne sont pas à la hauteur. Évidemment que l'opération football propre n'a pas eu lieu. C'est pas une question seulement de volonté, c'est une question de moyens. Les justices qui travaillent sur la corruption, les policiers qui travaillent sur la corruption sont trop peu nombreux. Et puis, il y a la société. Il faudrait un sursaut plus fort du monde du sport dans le cadre de Rui Pinto.
Et au total, des enquêtes ont été ouvertes dans 5 pays européens, le Portugal, mais aussi la France, l'Espagne, la Suisse et la Belgique.
Emma Sarango, on termine avec un contrat sans doute en or massif, celui que viennent de signer Harry et Meghan avec le roi du streaming Netflix. Un contrat pour produire des films, des séries, des documentaires. On n'en connaît pas le montant. À Londres, Richard Place.
Le montant du contrat est inconnu, mais il vaut plusieurs millions de dollars. Les spécialistes du secteur en sont persuadés. Sur Netflix, Harry figure déjà dans un documentaire sur les Jeux paralympiques. Il déclare qu'il n'y a rien d'autre pour sortir des endroits les plus sombres que le sport. Mais la comédienne et le prince ont signé pour produire, pas pour être devant la caméra. Par ailleurs, ils se sont engagés à ne pas nuire à la couronne britannique. Il ne faut donc pas attendre de révélations croustillantes. Il y a 2 mois, ils avaient signé avec une agence importante pour des prises de parole en public, dont certaines pourraient rapporter jusqu'à 1 million de dollars. Ils prouvent donc qu'ils savent faire des affaires, et c'est nécessaire pour payer le crédit de la villa qu'ils occupent désormais à Santa Barbara, évaluée à 15 millions de dollars. Londres, Richard Place, France Inter.
Voilà, ajoutons qu'à l'époque, les Obama avaient aussi signé avec Netflix un contrat estimé à 50 millions de dollars.
Merci Sébastien Legénie.